Eh bien, bon dimanche aujourd'hui, vous allez bien?
Oui.
Merci Seigneur, non, moi aussi je vais bien. Il fait chaud, il fait
beau,
la vie coule comme une chanson. C'est bien, on est content. Gloire à Dieu. On va ouvrir l'épître de Jacques ce matin au chapitre 5, verset 1 à 6. Bonjour. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viennent sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Seigneur, je te prie de me donner de la sagesse pour annoncer ta parole ce matin et qu'elle puisse faire du bien à chacun et chacune. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des vérités que nous autres disciples de Jésus devons savoir. L'amour, ce n'est pas un sentiment. Le Seigneur nous commande de nous aimer les uns les autres, mais il commande ça à qui ? Aux siens. En ce qui concerne l'amour que nous devons avoir pour les impies, il est bien réel, il est existant, nous devons aimer les impies, mais notre amour pour les impies ne se manifeste pas la même chose que l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est évident. C'est vrai que Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui courent à leur perte, et nous sommes appelés, nous aussi, à aller chercher ceux qui courent à leur perte, à les aimer. Mais ce n'est pas en les recevant avec des honneurs, comme s'ils étaient nos frères et sœurs, que nous les aimons. Pas du tout. Si nous les recevons ainsi, ils vont se croire élus. C'est nous qui allons en quelque sorte les élire, les mettre à une place qui n'est pas la leur. Nous devons, comme Jésus, camper sur notre position, que ça soit bien clair. Nous ne sommes pas d'ici-bas et nous n'avons pas à faire croire aux impénitents qu'ils sont sauvés. La Bible dit qu'il y a des péchés qu'on voit dans le temps, il se révèle avec le temps, et puis d'autres qu'on voit, bon ben voilà, c'est gros comme une maison. Au premier regard, sans même avoir besoin de juger, on voit. Ces gens-là sont des pécheurs publics. Ils commettent des péchés dont personne n'ignore que ces choses-là devraient rester cachées, mais ils sont. Ils en foutent. Ils montrent ça à tout le monde. Ils sont tellement endurcis qu'ils se vantent même de leur rébellion contre Dieu. Alors, que notre cœur ne fléchisse pas devant leur malheur. Quand le malheur arrive, leur arrive, que notre cœur ne fléchisse pas. Disons-leur ce que la Bible dit. Vous vous êtes enrichi au temps du carnage, quand tout allait mal. D'ailleurs, c'est vous qui avez provoqué ce qui va mal afin de pouvoir vous enrichir. On va pas pleurer maintenant. Maintenant que ça vous tombe dessus et que vous vous êtes ruiné. Repentez-vous. Mais pour eux, la honte, c'est pas salutaire. Ils n'ont pas honte. Alors, on ne juge pas. Nous ne disons pas « celui-ci est perdu, celui-là est perdu ». Non. Mais nous devons nous attacher à de telles personnes que pour les sauver. Et non pour les juger ou pour les condamner, ou pour leur faire croire que nous trouverons leur conduite finalement justifiable, etc., etc. Non. Il ne faut pas que ces gens-là aient accès à la table du Seigneur. On doit leur montrer qu'il y a une différence. Ils croient être élus parce qu'ils sont approuvés par les élus, parce qu'ils sont reçus avec beaucoup d'égard, n'est-ce pas ? Non. Il faut les éloigner de la table du Seigneur avec discernement, avec douceur, parce qu'ils ne montrent aucune repentance. S'ils montrent de la repentance, c'est différent. Nous devons démontrer que nous vivons dans un autre royaume que le leur. Ce n'est pas simplement une jolie phrase quand Jésus dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde ». C'est pour nous dire « Mais il faut que tout le monde sache que vous n'êtes pas de ce monde ». Il faut que les gens le voient. Parce que si on ne leur montre pas, vous savez, les gens de ce monde sont beaucoup plus sages et beaucoup plus intelligents que la plupart des chrétiens. Vous savez ça ? L'apôtre Paul le dit déjà, hein ? Ils sont rusés. Et si nous ne leur montrons pas où est leur limite dans notre relation avec eux, eh bien, ils vont s'emparer du gouvernement de la communauté, de l'Église. Je dis ça parce que c'est comme ça que l'Église s'est fait avoir au commencement, et c'est comme ça que l'hérésie a pu entrer dans l'Église. Ils ont reçu des pécheurs riches, influents, et ces gens-là se sont petit à petit mis à s'imposer comme des Nicolaïtes, c'est ce que la Bible dit. On trouve ça dans Apocalypse 2:6. Ils ont commencé d'abord par s'imposer par des œuvres, par des bonnes œuvres. Ils ont fait des bonnes œuvres. Ils ont été très généreux. Ils ont été gentils, charmants, merveilleux. Et puis ensuite, une fois qu'ils se sont infiltrés, une fois qu'ils tenaient les gens comme ça à cause de tous les dons, l'argent qu'ils avaient donné, eh bien, ils ont pu commencer à annoncer leur doctrine, à prendre position et à devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, la norme. Ils sont devenus la norme. Le mot Nicolaïte, je le répète, vient de deux mots grecs, Nikaos et Laos, qui veut dire dominer le peuple. Ils se sont mis à dominer le peuple de Dieu. C'est-à-dire, ils se sont mis à dominer dans l'Église à la place que ce soit le Saint-Esprit qui domine dans l'Église. Et aujourd'hui, voilà où en est l'Église de Jésus-Christ. Les gens qui les dirigent, ces églises, pour la plupart ne sont même pas nés de nouveau. Je me rappelle de ma mère qui avait été parlée au pasteur protestant de Chèvres, où nous vivions, en 1968, lorsque nous nous sommes convertis. Elle lui dit, mais frère, maintenant, je comprends ce que vous vouliez dire, parce qu'il prêchait la Bible quand même, mais il n'était pas né de nouveau. Elle lui dit, c'est extraordinaire, maintenant je suis né de nouveau. Et le pasteur lui dit, ça veut dire quoi ? Il ne savait pas, le pasteur. Le gouvernement de la communauté appartient à Dieu, qui est la tête, et à ses membres, à ses vrais membres. Jésus nous dit qu'il est la porte de son Église, mais il dit aussi qu'il est le portier. Et nous avons à être sensibles à sa volonté et ne pas faire les choses contraires à sa volonté. Les portiers de la vraie Église de Jésus-Christ ne sont pas les dignitaires, ceux que le peuple vénère. Ah, mon Seigneur, faut un bisou sur ma bague, s'il vous plaît. Ces gens-là se font passer pour les princes du culte. pour des saints, pour des saints pères, des très saints pères, pour des vénérables, et que ce sont des soi-disant prêtres, ce sont des soi-disant docteurs qui se font passer pour des messagers de Dieu et qui ne sont pas envoyés par Dieu. Oui, il y en a qui ont été envoyés par Dieu au début, puis ils sont tombés dans le piège et ils ont abandonné la parole de Dieu. Alors, s'éloigner de ces gens, les éloigner de notre communauté, ce n'est pas les mépriser. Nous n'avons pas à les juger en vue d'une condamnation. Non. Mais nous avons à discerner leur cœur, les intentions de leur cœur. Nous sommes le petit peuple du Seigneur. Nous devons faire attention, nous devons être prudents. Comme quoi, les gens ? Comme des serpents. Et simples comme des colombes. Nous avons à garder notre efficacité spirituelle et matérielle en recherchant ce qui est bien et non pas ce qui pourrait nous être avantageux, bien que, voilà, en faisant... Donc, pas de compromis. Nous avons un message pour ces gens-là, un message que nous avons à leur délivrer, c'est le message de leur salut. C'est ça les aimer, c'est leur dire qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Qu'ils sont perdus. On ne peut pas les aimer plus qu'en leur disant ça. Mais si je dis ça, il va me faire la gueule, il ne va plus me donner d'argent. On s'en fout. Ces gens-là ne sont pas notre source. Nous ne devons pas leur laisser croire qu'ils peuvent être notre source. Financière ou source d'inspiration spirituelle. Oui, mais moi j'ai lu que ils sont très cultivés sur des tas de choses que peut-être nous on ne connaît pas, parce que là, on n'a peut-être pas accès. Le texte de Jacques que nous avons lu a été écrit, certainement les théologiens ne sont pas tous d'accord, mais moi je penche pour l'idée que ça a été écrit aux environs des années 60 après Jésus-Christ. Et à cette époque, les Nicolaïtes étaient déjà bien établis, bien infiltrés dans les églises. On va lire ça dans Jacques chapitre 2, verset 3. Écoutez ce qu'il dit, le même Jacques, hein, qu'on a lu tout à l'heure. On va lire verset 1 déjà. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. » Alors les gens disent, oui, il ne faut pas faire la différence entre les noirs, les blancs, les jaunes, les verts à pois bleus. C'est très bien, mais écoutez la suite. Bien sûr qu'il ne faut pas faire de différence. Il supposait, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Assieds-toi là, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de mauvaises pensées ? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'il soit riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Et vous, vous avilissez le pauvre, ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Vous voyez qu'ils avaient déjà les problèmes des Nicolaïtes, hein? Ce reproche de Jacques à cette église primitive, Il est d'autant plus vivant actuellement. L'église de Jésus-Christ, je parle de la vraie église de Jésus-Christ, ne peut pas être sous l'influence de gens mondains influents. en nous et par nous, l'Esprit s'adresse à tous les pécheurs sans exception de personne, sans distinction de personne, et aussi bien aux pauvres qu'aux riches, aux puissants, aux impudiques, aux prêtres, à tous ceux qui tirent maintenant leur abondance de la terre, de l'or, du feu, du salaire des ouvriers, de l'humilité des petits qui sont très souvent naïfs et faibles. Nous nous adressons à ceux qui ont fait des rapines leur loi. D'ailleurs, quand ils se sentent en danger, ils font vite des lois pour se protéger, vous avez remarqué? Ils ont mis en loi leur injustice et leur abomination leur sert d'alliance entre eux. Ils sont liés par les choses qu'ils font et qu'ils disent. C'est une façon de faire du chantage élégant. Pour tromper, pour voler, ils ont fait croire aux petites gens et même aux chrétiens que c'est eux qui dominent, de par Dieu, pas l'acteur. Hein. Ils dominent par le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui. Alors, en leur faisant croire cela, ils ont engendré la vengeance du Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, elle est là. Maintenant, elle est là. Alors, comme dans Luc 18, 26, on peut se demander, mais alors qui va être sauvé? Mes frères et sœurs, on n'est pas là pour essayer de mesurer l'espace du paradis qui contient les élus. Ce n'est pas notre rôle. Nous avons été envoyés ici pour que nous montrions au peuple de Dieu ses erreurs, afin qu'ils comprennent qui est Jésus et qui il n'est pas. Jésus veut être connu tel qu'il est vraiment, et non avec les masques que lui ont fabriqués ces innombrables religieux. J'écoutais, ce qui m'a inspiré ça, c'est parce que j'écoutais un vieux message de frère Osborne qu'il avait donné à Paris, je crois que c'était en 2006, c'est vieux. Et il disait que quand il était en Inde, c'était le pays le plus religieux du monde. Ils sont toujours à la recherche de Dieu, du divin, ils voient le divin partout. Il disait qu'en Inde, les gens lui disaient, les pauvres aussi bien que les riches, lui disaient, mais nous aimons Jésus. Nous voulons le connaître mieux encore. Par contre, nous ne voulons pas les religions chrétiennes qui ont déformé la personne de Jésus et son message. Mes frères et sœurs, qui sommes-nous? Une religion parmi tant d'autres? Non. Nous sommes les hommes et les femmes scandalisés par les puissants et par les marchands de divers temples, par les princes et les prêtres comédiens. Je dis comédien pour ne pas dire hypocrite, mais c'est le même mot. Pourtant, beaucoup d'entre eux ont été appelés par Dieu au commencement, mais ils n'écoutent plus la parole de Dieu parce qu'ils ont vu qu'il y avait certains avantages. Beaucoup de personnes comme nous ont été scandalisées par ces marchands du temple, par ces prêtres comédiens, par ces princes de l'Église. Et ils se sont détournés de Jésus, ces petites gens scandalisés. Et ils ont élevé leurs enfants sans leur parler de Jésus. Et une deuxième génération est arrivée qui n'a pas entendu parler de Jésus. Puis une troisième génération qui est arrivée sans entendre parler de Jésus. Et aujourd'hui, on a affaire à une génération de gens scandalisés qui haïssent Jésus. Qui le haïssent. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent que les masques que porte le faux Jésus présenté dans ces religions. Avec tous les scandales qui vont avec. Et Dieu ne peut même plus leur envoyer des prophètes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le monde a été abusé par les faux prophètes. Tellement abusé que maintenant, quand vous dites prophète, on vous dit tout de suite faux prophète. Parce que c'est devenu une habitude. Donc Dieu n'envoie plus de prophètes. Bien sûr qu'il en envoie. Mais ils sont en général pas écoutés. qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes comme un phénix. Vous savez ce qu'un phénix? Nous sommes un phénix à terre, en cendre, qui est en train de reprendre vie. Voilà ce que nous sommes ici, nous. D'ailleurs, c'est pour ça que notre communauté s'appelle la communauté du phénix. Et Dieu nous envoie vers les siens qui sont des petits ou des grands, qui ont été scandalisés et qui ont perdu la foi. Nous libérons la vérité, pas seulement la vérité écrite dans un livre, mais celle qui habite dans nos cœurs qui sont attachés à Dieu. Jésus, le souffle de Jésus, Jésus souffle presque en silence depuis nos cœurs jusqu'au cœur des blessés qui cherchent vraiment, mais qui ne savent pas où chercher. Le fait, oh mon Dieu, c'est terrible. Jésus est en train de faire ça parce que le monde doit changer. Les gens savent que le monde doit changer, mais ils ne s'attendent pas à ce que, c'est, que ce soit Jésus qui va changer le monde et que ce soit sa véritable Église qui va changer le monde. Les nations ne sont pas soumises du tout à Jésus, elles sont en train de vaciller. Alors tout le monde est dans la confusion, se disant « mais qu'est-ce que ça va être demain ?» Et ils ont peur. Ceux qui sont un peu conscients, où est le modèle à suivre? Ils ne savent pas. Nous devons être le modèle. Je vais vous dire quelque chose. Les hommes de loi, les femmes de loi, les autorités civiles peuvent arrêter des pécheurs et les punir, mais il n'y a que les prédicateurs et les serviteurs et les servantes de Dieu comme vous qui pouvez changer le cœur des gens par la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Ça, les lois humaines ne peuvent pas le faire, elles peuvent juste punir. Mais nous, nous avons un pouvoir. Et ce pouvoir, nous avons à l'exercer. Alors vous, croyants qui m'écoutez, relevez-vous de vos cendres. Arrêtez d'être dans le découragement. Vivez la parole de Dieu. C'est ce que le monde attend. Dieu juge sa maison, elle est ébranlée. Et les princes de sa maison tombent. On les voit tous dégringoler les uns après les autres, des grands serviteurs de Dieu qu'on voyait sous des grands chapiteaux à Paris, n'est-ce pas, et que tout le monde vénérait, et certains me disaient « Ah, tu vois ton Osborne, et ben maintenant il ne vaut plus rien, regarde, c'est lui maintenant !» Je dis « Dans quelque temps, vous allez lui cracher dessus. » Et il lui crache dessus aujourd'hui, il est en prison, pour détournement de fonds, pas Osborne, hein. L'autre là, le grand qui venait à Paris, je ne vais pas dire son nom parce que je ne salire personne. Mais c'est comme ça, les grands tombent les uns après les autres. Parce que Dieu leur a laissé le temps pour se repentir, mais ils ne se sont pas repentis. Jésus veut que nous établissions la vraie piété, la vérité qui n'est pas autre chose que aimer votre prochain. Je ne veux pas dire qu'on n'en a rien à faire des doctrines, bien sûr que c'est important, mais ce qui est important avant les doctrines, c'est d'aimer son prochain. Si on aime son prochain, on a les véritables doctrines, mais c'est si on n'aime pas son prochain qu'on va commencer à avoir des fausses doctrines pour pouvoir manipuler notre prochain. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Aimez votre prochain. Aidez l'opprimé contre l'oppresseur. Aidez le spolié contre le spoliateur. Aidez. Aimez. Ensemble, établissons l'équité selon Jésus. Établissons-la au nom de Jésus et non pas au nom d'une église. Personne n'y croit plus, à part certains psychopathes. Jusqu'à aujourd'hui, les multitudes écoutent les paroles de Dieu et restent assises avec leur chef, avec leur prêtre, ils restent assis. Mais c'est le temps du rétablissement, mes frères et sœurs. Le temps est venu où la parole de Dieu s'accomplit. Alors aimons. Aimons activement, aimons visiblement. Je lisais quelque chose dans un livre, je ne sais plus où. Quelqu'un qui a dit « Les mains qui agissent sont plus belles que les lèvres qui prient. » Les mains qui mettent la main dans le portefeuille, la main qui va dans le portefeuille pour donner aux pauvres, ça c'est plus sain que des lèvres qui prient. Tu peux pas donner, si tu peux donner. Il y a des tas de choses que tu achètes qui sont inutiles et que tu pourrais donner. Aimons activement et visiblement, mais aimons particulièrement les heureux des béatitudes. Vous savez, heureux les persécutés, heureux ceux qui sont maltraités, heureux ceux qui n'ont pas compris, heureux. C'est ceux-là qu'on doit particulièrement aimer. Les blessés de la vie, les blessés des princes de l'Église, les blessés des hommes et des femmes politiques. Aimons ceux qui se mettent en marche, parce qu'être heureux, c'est se mettre en marche. Malgré les pièges diaboliques de tous les impies, puissant. Parce que Dieu, dans sa colère, dit qu'il va se souvenir des fautes des princes qui ont terrifié dans son, les petits en son nom, ou au nom de la justice. Il se souviendra des fautes des princes religieux, politiques et financiers qui n'ont pas donné ce dont ils parlaient dans leurs discours et leurs sermons. Il se souviendra plus de ça que de vos petits péchés à vous, là. Maintenant, c'est l'heure où chacun va recevoir sa part d'héritage. Chacun, les riches, les pauvres, les puissants, les faibles, tous recevront leur héritage. Alors, malheur au juge inique. Mais où est le mal? Tu le reconnaîtras quand tu sauras où est le bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Au revoir.